Je suis un peu enroué et j'ai la toux. Ma femme m'a mis dans mon sac du sirop contre la toux, des mecs bucaïnes pour la gorge et une bouteille d'eau au cas où, quoi. Ben, heureusement qu'on a des épouses qui prennent un peu soin de nous. Ça arrive toujours au mauvais moment, ces refroidissements, mais quand ça arrive, ben, on fait avec. Hein. C'est pas un problème. C'est vrai qu'on est presque voisins, puisque je suis pasteur à l'église évangélique libre de Colombier, et j'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ce verset de Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors évidemment, on connaît très bien ce passage, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens que à l'école du dimanche, parce que je suis né dans une église évangélique, hein, dès le berceau, on va dire, eh bien, on disait facilement, ben, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est quand même un thème qui m'a beaucoup travaillé. Hein. J'ai 54 ans, mais depuis l'âge de 4 ans, on va dire, ça fait 50 ans que cette phrase me travaille. Ce genre de phrase qu'on disait, il faut tout prendre comme venant de la main de Dieu, ou toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai que c'est quand même des phrases qui m'ont suivi tout au long de ma vie, et à tel point que quand j'ai effectué les études de théologie et qu'il a fallu choisir un thème de mémoire pour le master de fin d'études à Aix-en-Provence, eh bien j'ai choisi la Providence en lien avec le ministère pastoral. Et plusieurs travaux en master, on pouvait les choisir, je les ai orientés sur ce thème-là aussi. Parce que je trouvais absolument extraordinaire, quand on parle du salut, de réfléchir à ce que ce terme de providence divine implique. Et c'est absolument extraordinaire. Mais ce matin, je vais me restreindre à ce texte de Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on a déjà beaucoup parlé ce matin de souffrance, d'épreuve, c'est ressorti dans l'introduction, dans les prières. Est-ce que nos afflictions, elles surviennent au hasard? Est-ce qu'elles sont ordonnées par le diable? Ou est-ce que Dieu les permet? C'est franchement beaucoup de questions qu'on peut se poser. Si Dieu est tout-puissant et qu'il a le contrôle sur absolument tout, alors c'est vrai que nos afflictions, elles viennent peut-être par le diable, mais il y a un Dieu qui est plus fort que le diable et qui les permet à quelque part et dans quel but. Alors, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 3, ça résonne un peu, hein, ça joue, vous entendez bien ou bien il y a un peu d'écho, bon ça fait rien. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3, il est dit « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » C'est quand même très fort ce texte. Paul dit que nous sommes destinés à cela, c'est-à-dire à vivre des tribulations. Alors, c'est pas le genre de choses qu'on aimerait forcément entendre, hein. Et on a longtemps pensé que la vie chrétienne, ça serait une vie exempte de difficultés, d'épreuves, de tribulations. Mais c'est pas ce que Paul dit ici, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3. Paul dit très clairement que nous sommes destinés à être ébranlés au milieu des tribulations présentes. Bon. Alors, si on est destiné à cela, c'est que Dieu est à quelque part derrière ces tribulations. Il les permet, il les contrôle. Et dans quel but? Job donne déjà une réponse très partielle. Vous connaissez Job, tout ce qu'il a vécu. Dans Job au chapitre 7, le verset 1, mais également au chapitre 14, le verset 5, Job dit, en substance, c'est à lui de, donc c'est à Dieu de déterminer les circonstances de ma vie. La richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, la durée de ma vie. Job a été riche, il a tout perdu, il a été pauvre, il a été en bonne santé, il a perdu sa santé, il a été malade. Et Job va attribuer tout ça à Dieu en disant, eh ben, c'est Dieu et non le diable qui a enlevé nos bien-aimés car il fixe la durée de notre vie. Et on sait bien sûr quel est le combat derrière Job, mais Job ne le sait pas, puisque Satan a réclamé à Dieu la tête de Job, et Dieu va dire, ben, je te laisse le toucher, mais jusqu'à un certain point. Mais Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. À aucun moment, Satan a un contrôle absolu sur Job. Le texte est clair là-dessus. Et c'est Job lui-même, au chapitre 9, verset 10, 12, qui dit, s'il enlève, qui s'y opposera, qui lui dira, que fais-tu? Alors voilà, l'histoire de Job, elle est là pour nous rappeler que Dieu est souverain et que tous les détails dans la vie de Job, Dieu les contrôle absolument tous. Et que si Dieu permet une épreuve aussi terrible, puisque Job perd tout, même ses fils, eh bien, rien n'échappe au contrôle absolu de Dieu dans la vie de Job. Mais pour nous, on sait ce texte, et Dieu a finalement gagné, enfin Job, mais à quoi sert cela? Eh bien, pour nous rappeler que tout est dans les mains de Dieu. Luther disait, j'ai beaucoup aimé les réformateurs, notamment Calvin, Luther, Zwingli, enfin, certains sont inspirés par les prédicateurs en vogue. Moi, les gens qui m'inspirent sont les réformateurs, les revivalistes, Spurgeon. J'ai plutôt le rétro en arrière. Mais Luther disait que le chrétien sache que Dieu ne voit rien d'avance de façon conditionnelle. Au contraire, il décide, prévoit et agit selon sa volonté éternelle immuable. Et ça change toute la perspective. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Dieu qui voit en avant. C'est déjà pas mal, hein. Moi, j'arrive pas tellement à voir en avant. Je peux voir, visualiser qu'est-ce que je mangerai à midi. Puisque ma femme a sorti du poulet, elle va le faire au four avec des carottes. Mais autrement, on ira faire une balade cet après-midi. Mais je ne peux pas voir tellement plus loin. Dieu voit jusque dans les moindres détails tout ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ce n'est pas simplement une vue où il constate, c'est beaucoup plus que cela. C'est lui qui décrète ce qui va arriver dans l'avenir. Or, pour revenir aux tribulations qui sont le lot de chacun d'entre nous, mais apparemment permises et peut-être même voulues par Dieu, Paul donne beaucoup d'encouragement. J'aimerais en relever quelques-uns, notamment dans ce qu'il dit au chapitre 8, Romains 8, les versets 35 à 39. « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce que Paul veut dire, c'est que Dieu permettra que nous soyons des brebis destinées à la boucherie. Alors, on n'est peut-être pas nous ici, hein, mais sachez que dans beaucoup de pays, certains chrétiens sont pires que des agneaux destinés à la boucherie. Et pour ces chrétiens-là qui lisent ces textes-là, ils les comprennent. L'épée, la nudité, la faim, ces chrétiens qui perdent tout, leur maison, les incendies, ils se retrouvent à la rue avec juste les habits qu'ils portent. Mais Paul dit que ni les anges, ni les dominations, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ au fond. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est aussi une manière de dire que le plus important pour nous, c'est d'être enveloppé par cet amour du Christ tous les jours. Alors, la bonté de Dieu, elle est infinie. Sa sagesse également. Et tout ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous est bon et bien. Et le Seigneur ne va pas causer à aucun de ses enfants aucune larme inutile. Et pourtant, beaucoup de chrétiens souffrent et pleurent. Mais Dieu qui est sage, alors pourquoi permet-il les souffrances, les tribulations, la nudité, le péril, l'épée dans la vie de certains de ses enfants? Si Dieu est bon, alors pourquoi il permet des difficultés comme ça? Ben parce que le plan de Dieu est bon et que ces choses-là, finalement, peuvent contribuer à notre bien. Je reviens à ce qu'on a dit au début, toutes choses concourent au bien. Si Dieu qui contrôle absolument tout parce qu'il est Dieu, enfin, vous serez d'accord avec les réformateurs quand ils ont réaffirmé la souveraineté totale de Dieu sur tous les éléments. On n'a pas un Dieu qui est comme un capitaine de navire, c'est Calvin qui disait ça, qui a quitté son navire parce qu'il ne sait plus quoi faire, parce que les éléments lui échappent. Bon, quel est ce Dieu là? Moi je crois en un Dieu qui contrôle tout, qui a maîtrise sur tout, autrement. J'ai pas trop envie de croire en un Dieu qui finalement a perdu sa puissance, a perdu son autorité, a perdu sa souveraineté sur tout, et sur l'ennemi en particulier. Peut-être juste se rappeler que par rapport à l'ennemi est une créature, alors que Dieu est le créateur, Dieu est incréé. Que le Créateur a le contrôle sur sa créature. Il l'aura jusqu'à la fin des temps. Et la Bible nous dit que les jours de l'ennemi sont comptés. Dans l'Apocalypse, l'ennemi sera jeté dans les temps de feu. Et c'est très intéressant, si vous lisez les petits détails de l'Apocalypse, il est dit, notamment au chapitre 12 et suivant, que Dieu envoie l'ange pour jeter l'ennemi dans les temps de feu pour l'éternité. Apparemment, Dieu ne se déplace même pas lui-même. Alors, on ne sait pas vraiment, les théologiens ne savent pas qui est cet ange. Est-ce que c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'ange Gabriel, ou ça serait Jésus? Alors, certains théologiens pensent que c'est Jésus. Dieu envoie Jésus pour jeter l'ennemi dans les temps de feu pour l'éternité. Et il y aura un couvercle d'où il ne pourra plus sortir et ça sera terminé. Puis d'autres pensent, mais non, ce n'est même pas Jésus, Dieu envoie l'ange Gabriel, avec assez de puissance, mais en tous les cas, Dieu ne se déplace pas lui-même pour jeter l'ennemi dans les temps de feu. Il confie ça à un ange, à l'ange de l'Éternel. Et dans les psaumes, il est dit que Dieu lui-même se déplace auprès de chacun de ses enfants qui souffrent. Alors, ce que la bouche de Dieu dit, eh bien, sa main l'accomplit sans faille. Et tous les plans des hommes ont été frustrés, mais jamais les plans divins. Et Dieu a un seul plan qu'il accomplit jusque dans les moindres détails. Et on ne peut pas imaginer que Dieu soit frustré dans ce qu'il souhaite faire. Nous, on est souvent frustrés. Voilà, moi j'aime beaucoup bricoler, je fais plein de choses dans ma maison, je suis assez doué en peinture, ça va bien, mais quand je dois faire de la menuiserie, ça dépasse de tous côtés, puis je prends des grands jouets pour boucher, je suis toujours un peu frustré. Mais Dieu n'est pas frustré dans ce qu'il décide de faire. Ses plans s'accomplissent jusque dans les moindres détails parce qu'il est Dieu et c'est pas un homme. Si rebelle soit-il qui va pouvoir contrecarrer les plans de Dieu? Et ce n'est pas l'ennemi qui va pouvoir contrecarrer les plans de Dieu. Il s'y opposera, mais il ne pourra pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Et si l'ennemi attaque certains enfants de Dieu, les épreuves que ces enfants-là de Dieu vivront, Dieu les utilisera pour le bien de ses enfants. Tout ce que Dieu permet dans nos vies, eh bien, Dieu vise un but. Prenons très brièvement l'apôtre Paul. Dieu fit passer Paul par des épreuves quand même assez fortes. Mais ces épreuves, elles ont eu un but. Vous pouvez lire les voyages missionnaires de Paul. Combien de fois Paul a été chassé? Combien de fois il a reçu 40 coups moins 1? Souvent le 40e, c'était fatal, on mourait. Quand Paul veut aller visiter les églises qu'il a fondées, eh bien Dieu le conduit différemment. Il le conduit à Troas parce qu'il avait décidé que Paul devait rencontrer Luc. Et il y a une amitié extraordinaire qui se développe après coup. Mais on voit que Dieu n'a pas épargné Paul dans les souffrances. Et cette question des chardes dans la chair de Paul, on ne sait pas exactement ce que c'est. Certains théologiens disent que c'est peut-être la cécité, il voit mal, ou un bégaiement, on n'en sait rien. La Bible ne donne pas de précision là-dessus. Mais toujours est-il que Paul dit à Dieu, « Mais Seigneur, libère-moi de cette écharde. » Et là, Dieu ne va pas répondre à cette prière. Mais Dieu va dire, « Ma grâce te suffit. » Enfin, il semblerait quand même que selon certains textes, c'est bien que Paul ait cette écharde dans sa chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et c'est vrai que Paul a reçu un ministère absolument extraordinaire. Et cette écharde que Paul demande que Dieu l'enlève, eh bien, elle est importante pour maintenir Paul dans l'humilité. « Et ma grâce te suffit. » Et c'est Paul encore qui va dire, « J'estime, dans Romains au chapitre 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Or, toutes ces souffrances que Dieu permet dans nos vies, déjà, il en a le contrôle absolu et il ne permet pas que Satan nous attaque au-delà de ce que lui permet. Mais dès le départ, Dieu sait que nous serons vainqueurs. Quand Dieu permet que Job soit attaqué, Dieu qui sait et qui voit à l'avance, il sait que Job sera vainqueur. Et si tu es dans une situation où l'ennemi t'attaque, Dieu sait très bien que tu seras vainqueur. Mais il permet les attaques. Il permet ses attaques, il permet ses difficultés, il permet ses tensions au travail, comme on l'a dit tout à l'heure, ou peut-être dans plein d'endroits différents. Dans un but, c'est de nous transformer, nous révéler sa gloire et sa puissance, comme il l'a fait pour Paul. Mais aussi pour que nous puissions peut-être à un moment donné, et c'est peut-être un peu tôt pour le dire maintenant, mais faire la différence entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est Paul qui le dit. J'estime qu'il n'y a aucune comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. On me dirait, mais quel est ce Dieu qui veut nous faire souffrir, qui a inclus la souffrance dans son plan? Pour nous façonner cette souffrance, mais aussi pour nous donner à un moment donné cet avant-goût de cette gloire à venir. Il y a tellement de versets qui vont dans ce sens-là. Si Christ a souffert, vous aussi vous souffrirez. Or, je pourrais donner encore beaucoup d'exemples, mais prenez Joseph. Joseph, on pense qu'il avait à peu près 17 ans lorsque ses frères l'ont jeté dans la citerne, lorsqu'ils l'ont ensuite vendu à cette caravane qui passait, lorsqu'il a terminé en prison, injustement accusé par la femme de Potiphar. Vous connaissez toute l'histoire. Mais Joseph, vraisemblablement, est ressorti de cette prison et a été installé comme premier intendant à côté du roi à l'âge de 30 ans. Donc, on imagine 13 ans comme ça, croupir tout une adolescence, une jeunesse complètement fichue. Qu'est-ce que Joseph a pu penser durant toutes ces années-là? Pourquoi cette souffrance a justifié? Pourquoi ces attaques? Pourquoi est-ce que je croupis comme ça dans cette prison? Et la Bible nous dit que c'était pour un but, puisque le pays allait connaître la famine, que le roi aurait un rêve qu'il ne saurait expliquer, que Joseph expliquerait ce rêve et que Joseph dirait au roi, mais il y aura 7 années d'abondance, durant lesquelles il faudra pas simplement gaspiller tout ça, il faudra récolter, mettre dans des greniers, pour être suffisamment prêt pour les 7 années de famine qui suivront après coup. Et pendant ces 7 années de famine, la famille de Joseph, n'ayant plus rien à manger, va venir en Égypte réclamer de la nourriture, en acheter. Et là, Joseph se révélera à eux et Joseph dira, « Ah ben maintenant, je comprends. Pourquoi j'ai vécu tout cela ? C'est pour que vous, vous ne mouriez pas de faim. » Ah, ben voilà, un petit peu d'eau, ça fait du bien. Merci pour celui qui l'a mis. Les souffrances. Or, c'est un thème dont on n'aime pas trop parler, je me rends compte. Mais c'est un thème qui m'a vraiment beaucoup travaillé, je l'ai dit tout à l'heure. Et ces souffrances qu'on peut vivre chacun dans notre quotidien, elles sont toujours à mettre en perspective avec la souveraineté de Dieu qui est illimitée. Et j'aimerais parler de l'action, si Dieu nous conduit, parce qu'on a dit, ben, alors, son plan inclut, il permet des souffrances, elles sont là, et elles sont là pour notre bien au final. Mais comment est-ce que Dieu conduit nos vies? Parce qu'on se dit quand même que si Dieu conduisait vraiment notre vie, ben, il n'y aurait pas de souffrance, quoi. On serait déjà au ciel maintenant, hein. S'il y en a, c'est qu'il y a un petit problème, c'est quand on n'entend pas vraiment la voix de Dieu, puis qu'à quelque part on est un peu bouché. Ésaïe 40, 29 nous dit que Dieu exerce sur ses enfants une influence directrice. C'est-à-dire que souvent on n'entend pas la voix de Dieu, mais on marche à l'aveuglette. Parfois oui, on l'entend, cette voix de Dieu. Mais Dieu exerce une influence directrice. C'est-à-dire que lui a un plan pour notre vie et il fait en sorte que nous marchions dans son plan, même si on est bouché. Parce qu'on est souvent bouché, on n'entend pas Dieu. Alors, il y a des gens qui entendent, qui ont beaucoup de révélations comme ça. Moi, je peux réaliser que je suis chrétien depuis toujours et que j'ai fait à un moment donné des choix dans le service de Dieu que j'aurais peut-être pas fait. Je me souviens que j'ai eu un appel à 18 ans, c'était le jour où je me suis fait baptiser. Je ressortais de l'eau, j'étais encore tout mouillé. Il y avait une personne dans l'église qui s'est levée et qui a dit « J'ai une pensée de Dieu pour toi, je t'appelle par ton nom, tu me serviras. » Et à l'époque, on avait toutes ces croisades de portes ouvertes. Et je me suis dit, ben tiens, je vais partir apporter des Bibles en URSS. J'avais un ami qui le faisait, Thierry, et j'écoutais toujours très intéressé. Il partait avec un coffre caché, des Bibles en URSS, des témoignages tellement fantastiques. Je me souviens que Pierre-André, frère André était venu à Reconvilier. J'avais bu ses paroles. Je m'étais dit, ben, Seigneur, j'ai un appel. Mon appel, ça sera de partir dans les pays de l'Est pour apporter des Bibles. Je suis jamais allé dans les pays de l'Est et j'ai jamais apporté aucune Bible dans ces pays là-bas. Mais j'aurais jamais voulu être pasteur. Et le Seigneur m'a conduit à être pasteur dès l'âge de 23 ans, quoi, jusqu'à présent. Dieu exerce sur ses enfants une influence directrice. C'était son plan. Je le réalise maintenant, après coup. Et que son plan n'était pas que j'aille donner des Bibles dans les pays de l'Est, même si c'était une excellente chose. Psaume 48, 15 nous dit qu'il sera notre guide jusqu'à la mort. Et c'est lui qui nous dit, en produisant le vouloir et le faire, en fermant des portes, en ouvrant d'autres. Psaume 97, 10, Dieu exerce une influence protectrice aussi. Parce que si c'était l'ennemi qui dirigeait nos vies, ben plus personne ne serait là, on serait tous exterminés. Spurgeon disait, l'homme marche sans aucune entrave et opère un choix réel, mais il avance dans les pas même que Dieu a tracés à son intention. Spurgeon qui disait, ben, l'homme a l'impression qu'il choisit, mais dès lors qu'il est chrétien, qu'il a confié sa vie en Dieu et qu'il veut faire sa volonté, ben, Dieu l'influence dans ses choix. L'homme peut dire « j'ai choisi ». Spurgeon dit, ben, derrière le « j'ai choisi » de l'homme, c'est au fond Dieu qui conduit cet homme-là. Quelqu'un a déjà cité dans sa prière ce passage de Luc au chapitre 12, le verset 7. « Même vos cheveux sont tous comptés ». Alors, si, c'est pas une allégorie. Vous savez, en théologie, j'ai assez baigné là-dedans, hein. Il y a des textes narratifs, il y a des textes à prendre de façon poétique, de façon imagée. Et puis, il y a des textes aussi, si vous prenez l'Apocalypse, ben, c'est de l'apocalyptique, c'est comme Daniel. Quand vous prenez le texte où il est question d'un char de feu qui passe comme ça en l'air, alors, ben, si on prend à partir du texte, on pourrait dire que c'est allégorique. Mais quand on prend ce texte ici, que même nos cheveux sont tous comptés, là on est dans du narratif, on est dans quelque chose qui est tout à fait concret, quoi. Or c'est vrai que la poésie exprime la grandeur de Dieu dans les psaumes, et que c'est un langage poétique, imagé. Mais quand on prend ce texte, toutes les analyses, elles nous disent que c'est chiffré, quoi. Ça, c'est un texte à prendre de façon très littérale. Donc Dieu sait concrètement le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Alors si Dieu sait ce matin combien chacun d'entre nous, il y a des frères qui en ont un peu moins, peut-être que le Seigneur met un peu moins de temps pour compter. Ma femme, chaque matin, elle me dit, bah, oh là là, j'ai perdu 50 cheveux, j'en ai perdu 3, j'en ai perdu 5. Si Dieu sait le nombre concret, au chiffre près, de cheveux qui sont sur notre tête, ça veut dire qu'il a vraiment une vision totale de ma vie, de mon avenir et de tout. Je vais terminer, il y aurait encore tant à dire. C'est que le Seigneur intercède en faveur de ses élus. Dans Jean au chapitre 17, les versets 1 à 26, c'est Jésus qui dit « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu ». Et heureusement que Jésus intercède pour nous. Et il intercède au sein des difficultés. Et quand tu es au sein des difficultés, n'oublie pas que Dieu intercède pour toi, par Jésus-Christ, pour que tu restes dans la foi. Oh, Dieu est souverain sur chacune de nos vies. Hein? Dieu est souverain sur la création. Qui dirige le monde ? Dieu est souverain sur les êtres célestes. Éphésiens 3, 10, 6, 12. Dieu est souverain aussi dans l'administration des affaires du monde. Mais on me dirait, mais tout va mal dans ce monde. Ben, bien sûr, tout va mal. Mais pourquoi ? Il n'y a aucun despote qui puisse se placer à l'égal de Dieu et dire « je dirige ». On me dirait, mais alors si Dieu dirige le monde, il le dirige vraiment mal. Non, parce que ce monde n'est qu'une parenthèse dans un plan beaucoup plus grand de Dieu. La Bible nous dit que Dieu révélera sa puissance, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'ennemi sera jeté dans l'étang de feu pour l'éternité, qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Ce temps actuel de méchanceté est limité, mais lorsque Jésus reviendra, toutes choses seront nouvelles. C'est la Bible qui nous le dit. Donc on peut voir les atrocités à gauche et à droite, mais se dire que Dieu a décidé que ça serait qu'un temps. Et pourquoi ? Pourquoi le mal ? Et les théologiens sont arrivés à la conclusion que Dieu a permis le mal pour révéler la grandeur de sa compassion, de son pardon, de son amour à la croix. Et le mal, c'est une question immense sur un plan théologique. Puisque Dieu laisse ses créatures libres, et il y en a une, Satan, qui use de cette liberté pour se placer à l'égal de Dieu. Mais si l'homme est libre, il est responsable aussi. Alors Dieu gouverne. Dieu gouverne ce monde. Dieu mettra un terme au mal dans ce monde. Dieu rétablira toutes choses. Dieu enlèvera son Église. Dieu placera ses rachetés dans l'éternité à ses côtés pour régner. Et si Dieu est capable de faire tout cela, eh bien Dieu est capable de nous conduire à travers les afflictions et de donner du sens à toutes ces afflictions que nous pouvons vivre les uns les autres tous les jours. Et que ces afflictions puissent, comme pour Paul, comme pour Job, comme pour Joseph et tant d'autres encore, être utilisées par le Seigneur. Je terminerai juste avec le témoignage de Michel Renevier, que vous connaissez. Moi, je le connais parce qu'à la suite de mon appel, quand j'avais 18 ans, je faisais un camp. Quelques mois après, j'avais 19 ans. Et c'était Michel Renevier, l'orateur. Et j'ai dit à Michel Renevier, mais voilà, j'ai reçu un appel, je ne sais pas quoi faire. Et il m'a dit, écoute, je vais prier pour toi et puis je vais te donner un conseil. Et à la fin du camp, il m'a dit, ben, va faire un collège biblique. Alors, je connais cet homme-là, mais pourquoi? Vous savez sa vie, vous avez peut-être lu son livre « Fournaise ». Alors qu'il était au début de son ministère pastoral, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, un homme qui prêchait la parole, qui prêche toujours la parole, à 75 ans, il est toujours bouillant pour le Seigneur. Alors qu'il rentrait chez lui un jour, un motard ivre l'a percuté de plein fouet, sa voiture a pris feu et sa fille qui avait 13 ans, qui était assise à côté de lui, est morte, vive, brûlée. Et lui a été défiguré et il a subi 36 opérations, 36. Et dans les dernières opérations, ses doigts s'étaient recollés, les cicatrices, et ils ont dû couper au ciseau sans anesthésie parce qu'il avait eu trop d'anesthésie avec ses 36 opérations. Et lui n'était fautif en rien. Pourquoi a-t-il perdu sa fille? A-t-il été défiguré? A-t-il dû vivre 36 opérations dans certaines sans anesthésie? Alors, c'est une question que je lui avais posée. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis une telle souffrance alors que tu ne la méritais pas, tu étais déjà pasteur et tu servais le Seigneur avec joie partout? Et il m'a dit, mais si tu savais en une vie de ministère toutes les personnes qui m'ont appelé de Suisse romande et qui avaient vécu aussi, non pas des accidents comme ça, mais des choses très difficiles dans leur vie. Et de par ce que j'ai vécu là, j'ai pu les comprendre, j'ai pu les aider. Sans orgueil, dans l'humilité, mais j'ai compris ce que ces personnes-là ont vécu. Alors je me suis dit, mais une souffrance, une difficulté, un accident, quelque chose d'horrible que Dieu a permis dans la vie de son serviteur, mais qui a finalement été utile pour aider tant et tant et tant et tant d'autres personnes par la suite. Nos souffrances ne viennent pas par hasard. Elles sont permises par le Seigneur. Elles ne sont là que pour un temps et elles peuvent être utilisées par le Seigneur à bon escient. Que le Seigneur vous bénisse.